Carnet d'IG, cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Saison 1, la mémoire qui déraille. Carnet d'IG. Souvenez-vous de l'histoire du serpent qui se mord la queue. Vous avez mal au ventre à cause de votre anxiété, mais cette même anxiété est aggravée par vos maux de ventre. Ça n'en finit jamais. Et il semblerait que ce qu'on appelle le microbiote ait un grand rôle à jouer dans tout ça.
Mais il est aussi dépendant de la façon dont chaque personne fonctionne. J'inclus aussi la génétique, j'inclus sa façon de vivre, et c'est pour ça que, c'est un cercle.
Le microbiote, qu'est-ce qu'on en entend parler ces dernières années? Depuis l'apparition de ce fameux livre, Le charme discret de l'intestin, on le suspecte d'être impliqué dans beaucoup de mécanismes au sein de notre corps. Mais au fait, c'est quoi?
Ce microbiote intestinal constitue une bonne partie de notre organisme. On l'évalue, il me semble, à 1 kg de notre masse corporelle. Ça, il a sa vie propre. Il influe nos autres organes, bien sûr. Nos organes, notre génétique aussi, influent sur ce microbiote. C'est une population que nous hébergeons, avec qui nous vivons depuis des siècles et qui a été importante pour l'évolution de nos organes.
Nous abritons donc de nombreuses bactéries et autres micro-organismes dans notre ventre. Mais est-ce que ce microbiote interagit avec le système nerveux entérique?
Alors oui, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, notamment par notre laboratoire, mais bien d'autres aussi, qui montrent un lien entre le microbiote et le développement et la fonction du système nerveux entérique. En utilisant des modèles animaux qui sont dénués de microbiote, ce sont des souris axéniques qui sont donc élevées dans des environnements stériles. Et donc ces animaux survivent sans microbiote. Déjà, ils survivent sans microbiote, ce qui montre qu'on peut vivre sans microbiote. Il y a effectivement des défauts qui ont été mis en évidence au niveau du développement, donc c'est-à-dire le nombre de cellules gliales, le nombre de neurones, la structure aussi du système nerveux. En fait, le microbiote est un peu le marqueur de notre environnement aussi, et le marqueur de notre style de vie.
Mais ce microbiote, comment on l'acquiert? Est-ce qu'il est transmis lors de la grossesse, lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère? Ou bien nous développons notre propre microbiote indépendamment?
Alors, pour l'instant, il y a quand même un consensus qui montre que ce microbiote se met en place à la naissance, même s'il semblerait que le microbiote de la mère a une influence aussi sur l'enfant en développement à ce stade prénatal. Mais bon, si on parle du microbiote de l'individu qui est à naître, eh bien tout se met en place à la naissance. Donc la création de ce microbiote va déjà dépendre de son mode de naissance, par une voie naturelle ou par césarienne. Là, déjà, le premier contact avec l'environnement va sculpter les premières bactéries qui vont coloniser le tube digestif. Cependant, ces différences qui sont observées peu de temps après la naissance entre voie naturelle et césarienne sont gommées quelques mois après.
Ça signifie donc que le microbiote change éventuellement au cours des années?
Alors ça, sur l'homme, on ne le sait pas. On a suivi l'évolution du microbiote, donc qui va évoluer tout au cours de la vie. Des trois premières années de la vie, c'est très fluctuant parce que la nourriture, l'alimentation sont en effet en perpétuelle évolution. Et donc le microbiote va suivre cette évolution. Ensuite, il y a des événements de vie, les maladies, ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce que l'on respire, qui vont faire aussi évoluer le microbiote. Donc il y aura des grandes variations de composition de microbiote, mais qui, une fois, par exemple, une petite maladie passée, va revenir à sa normale, ce qu'on appelle la résilience du microbiote aussi. Ce qui fait que petit à petit, donc il y a des grandes variations.
Est-ce qu'on doit comprendre que l'équilibre de ce microbiote est précaire au sein de notre corps?
Je pense qu'il y a une vraie symbiose qui existe, puisque le microbiote a besoin de notre alimentation pour survivre. Et en retour, nous avons besoin de certains métabolismes exercés par ce microbiote qui permet de digérer certains aliments que nous ne pouvons pas digérer par nous-mêmes. On arrive à un plateau, à un équilibre de microbiote qui serait unique pour chacun d'entre nous.
Le microbiote joue donc un vrai rôle dans notre santé digestive. Mais je m'interroge, quel est le lien entre le microbiote et le système nerveux entérique?
Chez l'homme, on ne le sait pas. Sur les modèles animaux, oui, on a des évidences qui montrent que ce microbiote participe à la structuration du système nerveux entérique et à sa fonction. Ce sont sur des modèles animaux, toujours les mêmes modèles, hein, de souris sans microbiote ou de transfert de microbiote d'une souris à une autre. Donc oui, clairement, ça a un impact, mais ça a un impact aussi sur beaucoup, beaucoup d'autres organes. Même si le microbiote intestinal est en effet proche, on va dire, de ce système nerveux-là, le système nerveux entérique, eh bien, il ne va pas influer que sur ce système nerveux. Il influe aussi sur d'autres systèmes nerveux, le cerveau, et sur bien d'autres organes, hein, le système immunitaire, le système cardiovasculaire.
La communication entre le microbiote et notre intestin se fait-elle dans les deux sens ? Le microbiote influerait sur le fonctionnement de notre intestin, mais est-ce que son fonctionnement ou son dysfonctionnement peut modifier notre microbiote ?
Cette co-installation du microbiote intestinal et de notre système nerveux fait qu'il y a en effet des allers-retours, enfin, je veux dire, une coévolution très 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 proche et que l'un dépend de l'autre finalement parce que le système nerveux entérique et le système nerveux central répondent aux mêmes mécanismes, suivent un peu les mêmes lois de fonctionnement. Hein, c'est des neurones qui communiquent entre eux, régulés par des synapses, des cellules, bref, des mêmes mécanismes, des mêmes molécules. Et c'est un perturbateur, que ce soit génétique ou environnemental, vient perturber un système nerveux. Bon, au niveau du système nerveux central, il va y avoir des conséquences sur les émotions, sur sa façon de vivre, parce qu'il va y avoir modulation de ce système nerveux central. Mais ce perturbateur peut aussi agir au niveau du système nerveux entérique, parce que, comme je vous l'ai dit, ça suit les mêmes principes de fonctionnement. Et il y aura donc des perturbations au niveau digestif.
Cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. La boucle est bouclée. Tout est lié et tout peut se perturber. Et d'ailleurs, concrètement, avons-nous déjà observé un exemple d'une modification de comportement induite par une modification de microbiote ? Ce genre d'observation permettrait d'illustrer cette communication à double sens. Nous avons questionné Jean-Marc Sabaté à ce propos, chercheur à l'INSERM en physiopathologie et pharmacologie de la douleur et gastro-entérologue. Cette double casquette lui permet d'avoir un lien aussi bien avec le clinique qu'avec la recherche fondamentale. Il nous explique ce qui a pu être observé chez le rat, par exemple.
Et donc là, on a des réponses en général assez claires et spectaculaires. Par exemple, je pense que beaucoup des auditeurs ont peut-être vu une émission qui s'appelait « Intestin, deuxième cerveau », où on voyait des rats qui étaient timides et on modifiait leur microbiote, soit par la prise d'antibiotiques, soit par d'autres de modifications du microbiote. Et puis le rat qui était timide devenait explorateur.
Ce changement qu'on a pu observer chez le rat, peut-on le constater chez l'homme également ? Pourrait-on changer de comportement par la simple modification de notre microbiote ?
Chez l'homme, les tentatives qui ont été faites d'obtenir ce genre de modification, soit de votre niveau d'anxiété, de dépression ou des symptômes digestifs, sont vraiment beaucoup moins spectaculaires. Hein, ce qui a été fait, c'est qu'en donnant par exemple un probiotique pendant plusieurs semaines à des patients qui avaient un syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée, eh bien, on avait enregistré leur fonctionnement cérébral dans ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle, où on voit les zones qui s'activent ou qui se désactivent au niveau du cerveau, et on a vu que ce traitement-là pouvait modifier l'activation de certaines zones cérébrales et pouvait modifier un niveau dépression de gens qui n'étaient pas déprimés mais n'avaient pas eu dans cette même étude d'effet sur les symptômes digestifs. Donc vous voyez que c'est un effet très modeste par rapport aux choses très spectaculaires qu'on peut voir chez l'animal.
En effet, il ne faut pas oublier qu'il se passe beaucoup de choses dans notre cerveau du haut, notre premier cerveau qui est très développé et complexe. Souvenez-vous, Hélène a mentionné plutôt le rôle de l'alimentation dans la composition de notre microbiote en général. Dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, est-ce que l'alimentation a également un rôle à jouer ?
On fait des études épidémiologiques qui montrent un lien entre certaines catégories d'aliments et la maladie, mais ça, c'est les patients qui le racontent et ça a été publié dans des études, et même des études que nous, on a faites, c'est que 2/3 des patients disent que finalement, leurs symptômes sont soit générés au cours des repas, ou aggravé par un repas et la prise d'aliments. Donc ça, c'est une constatation. Après, il y a pas mal de mécanismes différents par lesquels l'alimentation peut jouer un rôle. Alors, je tiens à dire aussi, on n'en a pas parlé, il y a un autre symptôme qui est très banal, dont se plaignent souvent les patients, qui est un des plus difficiles à traiter, et qui ne fait pas partie de la définition. Donc ça non plus, ça n'est pas la reconnaissance de la maladie. Quand vous avez trois types de symptômes et qu'on en oublie un volontairement dans la définition, c'est les ballonnements. Les ballonnements sont très fréquents. 92% des patients peuvent avoir des ballonnements dans nos études. Et pourtant, ils ne font pas partie de la définition. Il y a des gens qui peuvent d'ailleurs nous raconter ça au début. Bah, ils disent « j'avais l'impression de faire des gastroentérites très fréquentes ».
Symptômes très communs. Définition incomplète ou instable. La reconnaissance du syndrome de l'intestin irritable paraît encore assez compliquée. Dans ce parcours semé d'embûches, il se pourrait même que certains de ces symptômes banals cachent une autre maladie que le syndrome de l'intestin irritable. La maladie de Crohn, par exemple.
J'ai le syndrome de l'intestin irritable et c'est franchement pas drôle tous les jours. Tantôt je suis constipée, tantôt j'ai la diarrhée, le ventre gonflé et ballonné dès que je mange quelque chose qui ne me convient pas. Apparemment, c'est à cause de la dysbiose, un déséquilibre de ma flore intestinale. Les bactéries pathogènes prennent plus de place que les bactéries bénéfiques pour ma santé, car mon intestin est plus perméable et laisse passer un peu n'importe quoi plus facilement. Même ma vie sociale en est impactée. Par exemple, j'évite d'aller au restaurant, ou bien il m'est impossible d'aller faire mes courses car j'ai souvent besoin d'aller aux toilettes très rapidement, et ce n'est pas toujours aisé. Je suis tout le temps dans l'anticipation et c'est très anxiogène. Mais j'en ai marre que l'on me dise que mes problèmes d'intestin, c'est psychologique, parce que je suis trop stressée, soi-disant. Certes, le stress aggrave mes symptômes, mais il n'en est pas à l'origine. Et cette maladie m'est tombée dessus il y a 3 ans, sans vraiment prévenir, alors que je n'avais jamais eu de problème digestif auparavant. Alors non, ça ne se passe pas seulement dans ma tête.
Si malgré tous les obstacles rencontrés, un patient se voit enfin diagnostiqué comme étant atteint du syndrome de l'intestin irritable, quelles sont les options qui s'ouvrent à lui? Quelle prise en charge et quel traitement éventuel existe-t-il?
Alors on a des traitements de cette maladie, hein, mais peut-être ils ne sont pas suffisamment efficaces, ou le problème c'est que cette maladie avec des symptômes finalement d'une très grande banalité peut être déclenchée de manière différente suivant les individus, par des mécanismes différents. Et comme ces mécanismes, on ne les étudie que dans le cadre de la recherche, eh bien, si vous avez, par exemple, une dizaine, une douzaine de traitements, mais que l'immense majorité des praticiens n'en donnent qu'un ou deux, vous ne vous mettez pas en situation d'améliorer un grand nombre de patients. Donc, il faut avoir une stratégie et l'expliquer aux patients, pour expliquer qu'il y a des mécanismes divers, qu'on ne peut pas deviner les mécanismes présents. Alors, on connaît la fréquence de tel ou tel mécanisme et qu'on va tester successivement différents traitements ayant potentiellement un impact sur un mécanisme en espérant améliorer les gens. Là aussi, il faut expliquer que peut-être ça ne sera pas une disparition complète des symptômes, hein, passer de 100% de symptômes sur les échelles de douleur, dont on cote la douleur ou les symptômes, s'ils ont 8 sur 10 au niveau douleur, peut-être ils n'auront pas 0 sur 10, mais peut-être ils auront 3 ou 4 sur 10 et une amélioration qui a un sens en termes de qualité de vie. Voilà, donc il faut expliquer cette stratégie. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations, expliquer que c'est une vraie maladie, et expliquer que l'inefficacité d'un traitement qui a été prescrit ne doit pas remettre en cause le diagnostic.
Si malgré tous les obstacles rencontrés, un patient se voit enfin diagnostiqué comme étant atteint du syndrome de l'intestin irritable, quelles sont les options qui s'ouvrent à lui? Quelle prise en charge et quel traitement éventuel existe-t-il? Nous retrouvons à nouveau Michel Nonlist pour répondre à ces questions.
Effectivement, je pense que ça ouvre des perspectives non seulement de nouvelles cibles thérapeutiques, de nouveaux sources de médicaments, avec l'avantage que le microbiote, c'est plutôt considéré comme une usine chimique. Elle produit beaucoup de médiateurs chimiques qui peuvent avoir des intérêts thérapeutiques multiples et ciblés de multiples organes ou au sein d'un organe de multiples fonctions qui peuvent être altérées, avec des approches soit d'apport de bactéries bénéfiques, en allant jusqu'à la transplantation d'un microbiote sain, en passant aussi par des modulations nutritionnelles du microbiote intestinal. Donc ça, c'est un peu l'aspect thérapeutique. Mais ce qui ressort aussi des études sur le microbiote, c'est que le microbiote peut être un acteur ou un cofacteur qui va prédire ou pas l'efficacité thérapeutique de certains médicaments. Et ça a été démontré, par exemple, on parlait de la maladie de Parkinson, où on sait que certaines bactéries sont présentes chez des patients qui vont dégrader le médicament, la dopamine, qui va remplacer les neurones qui sont dégénérés, qu'on donne à ces patients-là. Et ce qui peut expliquer pourquoi, chez ces patients qui ont ces bactéries, il y a une moindre efficacité de ces médicaments. Et donc, en inhibant cette bactérie, on peut améliorer l'efficacité du médicament. On a la même chose dans les immunothérapies, dans le cas de cancer, dans la réponse, par exemple, à la radiothérapie, où on sait que la composition du microbiote va être un acteur de l'efficacité et ou de l'inefficacité de la complication de certains médicaments. Donc ça ouvre vraiment des portes, des perspectives de recherche assez phénoménales, mais qui doivent avant tout passer par des études qui soient effectivement suffisamment puissantes en termes de nombre de patients.
Il faudra donc accorder du temps aux études scientifiques. Nous ne sommes en fait qu'au début de recherches qui pourraient s'avérer très prometteuses. Mais alors, que nous reste-t-il à découvrir ?
On a besoin d'améliorer la connaissance du rôle du microbiote au sein des pathologies, de mieux stratifier, de mieux personnaliser finalement. C'est trouver une signature personnalisée du microbiote associée à une maladie et ou à un symptôme particulier pour pouvoir appliquer des thérapeutiques personnalisées. Donc ça devient à nouveau un outil de l'arsenal thérapeutique qui est tout à fait prometteur, sur lequel il y a des vrais enjeux non seulement de recherche, mais aussi effectivement socio-économique, particulièrement important, tant dans la prise en charge des pathologies, mais aussi dans le maintien en bonne santé de l'ensemble de la population et dans la diminution des risques qui sont très, très divers, variés et qui vont nous donner du travail bien au-delà du temps qu'on a encore à passer en activité et pour les générations à suivre aussi d'étudiants qui trouve dans ce sujet-là probablement des sujets extrêmement passionnants et motivants.
Le cerveau est lié à notre intestin, lui-même lié à notre microbiote intestinal. Un dérèglement chez l'un peut entraîner des répercussions sur les autres. C'est pourquoi, dans certaines pathologies mentales, il est difficile de pointer l'origine du déclenchement de la maladie. Beaucoup de facteurs sont à prendre en compte. L'environnement dans lequel nous nous situons, notre alimentation ou encore la génétique. Tout cela influe sur notre organisme et détermine la composition de notre microbiote. De notre microbiote ? Ne devrions-nous pas dire de nos microbiotes ? Dans cet épisode, nous avons beaucoup parlé du microbiote intestinal. Mais saviez-vous qu'il en existe plusieurs, à différents endroits de notre corps ? Mais où se situent-ils ? Et surtout, sont-ils impliqués dans la régulation ou le fonctionnement de d'autres mécanismes de notre corps ? Autant de questions que nous pourrions continuer de nous poser dans nos carnets d'IG. Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM. C'est la fin de cet épisode et de la première saison de Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM consacré à la découverte des mécanismes de notre corps. Nous remercions Hélène Boudin, Jean-Marc Sabaté et Michel Lundlist pour leurs interventions dans cet épisode. Une coproduction de l'INSERM avec Lola Yanuzzi et Camille Sico, du Labo des Savoirs avec Dounia Saez et avec la voix de Lucie Marchand. Retrouvez Carnet d'IG sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt.